Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Un nouveau confinement pour un mois, la situation a empiré, notamment dans les écoles. Réaction du SNU-IPP-FSU, syndicat des professeurs du premier degré.
Le collectif écologiste La Chouette, de nouveau au tribunal pour sa possible expulsion. Nous étions à l'audience.
La communauté d'agglomération du bassin de Bourg met en avant un budget vert, mais en quoi ça consiste ? Interview de Walter Martin en charge des finances à la CA3B, et c'est tout de suite dans l'actu en bref.
Bourg en bref.
Nouveau confinement pour l'Ain et la France.
Dans notre département, le nombre de cas repart rapidement à la hausse. En une semaine, une quarantaine d'hospitalisations ont eu lieu pour des cas de Covid.
Ces mauvais chiffres au local comme au national ont poussé le président Emmanuel Macron à prendre de nouvelles mesures appliquées depuis samedi dernier. La préfecture de l'Ain les rappelle. Inès, vous faites le point.
Il y a toujours un couvre-feu entre 19h et 6h, donc il faut un motif valable et une attestation qui le prouve pour se déplacer. En journée, déplacement libre dans un rayon de 10 km avec un justificatif de domicile. Vous pouvez aller plus loin, mais dans votre département, si c'est pour la garde des enfants, des courses, des démarches administratives ou juridiques, et il vous faudra une attestation. Et au-delà du département, les déplacements sont autorisés si c'est pour votre travail, pour vos rendez-vous médicaux, un motif familial, les convocations judiciaires, les déménagements notamment.
Et du côté des écoles ?
Cette semaine, c'est enseignement à distance pour tous, sauf les universités qui fonctionnent toujours à distance. La semaine prochaine, le 12 avril, vacances de printemps pour toute la France, pour 2 semaines. Et à partir du 26 avril, rentrée scolaire à l'école pour les maternelles et les primaires, et à distance pour les collèges et les lycées. Et ces derniers rentreront dans leurs établissements en présentiel à partir du 3 mai, mais toujours avec une alternance entre les cours à distance et en présentiel. Nous avons contacté vendredi dernier Morgane Vincent, secrétaire départemental du SNUIP-FSU, le syndicat des professeurs des écoles primaires et maternelles.
La semaine dernière, donc votre syndicat, le SNUIP-FSU, le syndicat des enseignants du premier degré, a tiré la sonnette d'alarme auprès de l'inspectrice d'académie que vous avez vue. Donc 40 classes étaient fermées le 25 mars dans l'Ain, c'est ce que vous dites dans votre communiqué de presse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation dans les écoles dans l'Ain ?
Alors, la situation dans les écoles dans l'Ain depuis 15 jours, s'aggravait, c'est-à-dire qu'on avait de plus en plus de cas d'enfants dans les écoles et également des enseignants qui étaient positifs. Et tout ça, ça s'est empiré, ça s'est vu de plus en plus parce qu'il n'y avait tout simplement plus de remplaçants, puisque l'inspection académique n'a pas prévu l'année dernière de recruter plus de remplaçants, alors que le contexte épidémique ne s'améliorait pas et qu'on l'a réclamé à tort et à cri.
Comment vous avez réagi face aux annonces du gouvernement ?
Alors nous, on voulait tout faire pour que les écoles restent ouvertes, mais finalement, en fonction du contexte, on n'a pas le choix, et le gouvernement n'a pas eu le choix. Il devait fermer les écoles parce que les contaminations montaient trop et il n'y a eu aucune anticipation, aucun. Nous, on demandait un plan d'urgence sanitaire pour l'école et on l'a pas eu. Donc finalement, ça n'a rien changé. Forcément, ils ont dû fermer.
Les enseignants sont-ils prêts pour cette nouvelle semaine de cours à distance ?
Les enseignants ont une énorme conscience professionnelle par rapport à ça. On n'a pas du tout été aidés avec des formations spécifiques ou alors même avec la mise à disposition d'ordinateurs. On continue d'utiliser nos outils personnels parce que l'éducation nationale ne nous en fournit pas. Donc chacun fonctionne avec son propre ordinateur, sa propre imprimante, son propre téléphone. Il n'y a eu aucune anticipation depuis un an, en fait, il n'y a rien qui a bougé.
Et quel est l'impact de ce confinement sur les programmes ?
Alors, l'impact sur le confinement, la continuité pédagogique, ça va continuer. Là, les enfants vont être pour le moment que 3 jours d'école à la maison. Donc, on pense qu'il n'y aura pas de gros décrochage. Certains enseignants avaient déjà anticipé le travail à mettre en place. Et puis, aujourd'hui, dans les écoles, en fait, on est vendredi, les enseignants vont fournir du travail aux élèves et pour les 3 jours suivants.
Comment ça se passe dans les écoles depuis les annonces du gouvernement ?
Alors, ce qu'on sait, c'est que depuis 2 jours dans les écoles, c'est très compliqué pour 2 choses. C'est-à-dire que le ministre nous demande à la fois d'organiser la continuité pédagogique pour les élèves qui ne pourront pas venir à l'école, enfin qui doivent rester chez eux, mais il faut savoir aussi qu'on nous demande d'accueillir les enfants de soignants. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui, la semaine prochaine, seront quand même à l'école. La majorité des écoles, en fait, ne seront pas fermées. Il y aura peut-être 2 ou 3 enseignants qui accueilleront les enfants de personnel soignant et qui leur feront classe. Et ces enseignants, pour la plupart, vont avoir une double journée. C'est-à-dire, d'une part, la journée en présentiel à l'école avec les enfants de soignants, et d'autre part, pour les 25 autres élèves de leur classe qui ne peuvent pas venir à cause du confinement.
Et donc ça, c'est déjà un peu organisé de savoir qui va rester, combien d'enfants il faudra garder, combien d'enfants de soignants il faudra garder.
Alors pour le moment, c'est pas du tout organisé. Le décret n'est pas paru. Donc on ne peut même pas savoir qui est personnel prioritaire. Est-ce que les enfants d'enseignants le sont ? Pour le moment, on n'a rien du tout. Aucun texte officiel n'est tombé. Donc on navigue à flot. On a aucune visibilité pour savoir quels élèves seront là mardi.
Donc ça, c'était déjà le cas du premier confinement, ce manque d'organisation
Oui, c'était déjà le cas, et malheureusement, on peut se dire qu'on est presque 1 an après, jour pour jour. On ne sait pas ce qui s'est passé, il n'y a eu aucune anticipation par rapport à ça, alors qu'on voyait le contexte sanitaire empirer de plus en plus, on voyait la vague monter, et finalement, rien n'a été fait, et on est aujourd'hui vendredi, on n'a toujours pas le décret pour savoir qu'il faut accueillir mardi.
Que demande votre syndicat, le SNUPFSU, aujourd'hui ?
Nous, désormais que le confinement a été prononcé, ce qu'on veut, c'est préparer ce qui va le 26 avril, c'est-à-dire la date de la rentrée. On ne veut pas reprendre dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on voudrait profiter de ces 3 semaines, et on le demande au gouvernement, on l'a demandé plusieurs fois, à ce que les enseignants volontaires soient vaccinés. Il faut qu'on soit prioritaire pour les vaccins si on veut tenir dès le 26 avril le jour de la rentrée. On demande aussi une aide pour que les communes puissent s'équiper en aérateurs. Faut savoir que nous, la seule consigne qu'on a, c'est d'ouvrir les fenêtres. On veut des aérateurs, des purificateurs d'air et des détecteurs de CO2. On sait que c'est aussi des choses qui marchent, notamment en Allemagne, et qui ne sont pas mises en place en France. Donc nous, ce qu'on veut, c'est reprendre, mais vraiment en faisant attention.
C'était Morgane Vincent, secrétaire départementale du SNUIP FSU de l'Ain, le syndicat des enseignants du premier degré.
Un budget autour de la transition écologique pour la CA3B. Walter Martin, vice-président aux finances de la communauté d'agglomération du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse, le précise, ce budget vert n'est pas un budget spécifique.
Le principe, c'est à l'intérieur de l'ensemble des budgets de l'agglomération, d'identifier les dépenses qui vont contribuer à la transition écologique. Donc sur un budget de 176 millions d'euros, tout budget confondu, on a environ un petit tiers de dépenses que nous avons affectées à la transition écologique.
C'est ce que vous dites, c'est que ce n'est pas un budget spécifique, mais c'est la transition écologique qui va être présente dans toutes les décisions de l'agglomération.
Voilà, c'est cette préoccupation qui est présente. Le but, c'est d'engager une sorte de cercle vertueux. Ça n'est pas d'avoir un filtre qui précède toutes nos dépenses en se disant si c'est vert, on y va, si c'est vert, on n'y va pas. Mais c'est un cercle vertueux qui s'engage, qui nous permettra de faire le bilan dans 1 an et de nous améliorer progressivement pour avoir de plus en plus d'actions et de projets qui concourent de façon efficiente à cette transition.
Donc ça veut dire concrètement que vous allez choisir...
Ça veut dire qu'on a, par exemple, on adhère à un groupement d'énergie qui nous permet d'acheter de l'énergie dont l'origine renouvelable est certifiée. Concrètement, une partie de l'électricité achetée par l'agglomération l'est auprès de l'entreprise, une entreprise qui s'appelle Enercop, qui nous vend de l'énergie renouvelable.
Un autre projet de transport sans émission de CO2, c'est la voie verte, la traverse. Vous êtes maire d'Attignat, la commune où débute cette piste cyclable qui permet de relier Jaïa. Elle doit être prolongée. Où en est le projet ?
Les travaux ont démarré pour la prolongation, je dirais, de chaque côté de la voie verte, notamment au nord en particulier, puisque c'est ce qui est en train d'être réalisé aujourd'hui. Cette voie verte va être prolongée au nord, donc en direction de Saint-Rivier-de-Courte. Et puis, plus au sud, l'objectif, c'est de l'amener à la Vallière et à Césaria, voire à l'île Chambeau.
On vient de parler de ce qui est fait en interne à la CA3B pour la transition écologique. Il y a aussi les mesures directes pour les habitants de l'agglomération du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse. Il y a par exemple un fonds isolation, Mon Cap Énergie, des actions pour améliorer l'isolation de son logement, les vélostations, la collecte sélective des déchets ou encore les ressourceries.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière, au fond, loin, il y a une bague.
En reportage avec Radio B.
Ils étaient une dizaine ce jeudi matin à assister à l'audience en soutien du collectif La Chouette, qui a fondé une maison de l'écologie et de la décroissance dans un logement abandonné avenue du Maréchal Juin à Bourg-en-Bresse. Le bâtiment appartient à la SEMCODA. Ce bailleur social a lancé une procédure judiciaire contre les habitants de La Chouette et plus particulièrement contre Lucas, résident du squat et qui s'est porté volontaire pour représenter le collectif. La SEMCODA demande l'expulsion immédiate des résidents. L'avocate de Lucas va, elle, demander à repousser l'expulsion à dans 3 ans, le temps de trouver de nouveaux locaux pour le collectif La Chouette. Après 1 heure d'audience, où les 2 plaidoiries se sont enchaînées, la décision sera seulement connue fin mai. L'avocate de Lucas nous résume le déroulement de l'audience à la sortie du tribunal.
Alors, je suis maître Adélaïde Jacquin, je suis avocat au barreau de Paris. Aujourd'hui, j'ai assisté Lucas Delbar, qui est un des membres du collectif La Chouette, dans une procédure en référé, puisque le propriétaire de l'immeuble souhaitait son expulsion immédiate des lieux.
Donc, comment s'est passée cette audience ?
Alors, on est dans le cadre d'une procédure où on a déjà échangé beaucoup d'écritures, la partie adverse et nous. Donc, l'idée de cette audience était principalement de mettre en exergue les points fondamentaux. Pour nous, le sérieux du projet, le fait qu'il n'y ait pas eu d'effraction dans l'entrée dans les lieux, le fait que les demandes du bailleur social étaient mal fondées juridiquement, et à titre infiniment subsidiaire, de demander un délai pour laisser au collectif et à toutes les personnes qui vivent dans les lieux aujourd'hui le temps de se retourner avant d'aller vers un autre lieu, puisqu'on a une proposition par l'association Emmaüs d'éventuellement héberger le collectif La Chouette l'année prochaine.
Et est-ce que vous avez déjà une impression sur ce qui va peut-être être dit donc au mois de mai ?
Non, c'est toujours les impressions d'audience sont toujours erronées. Quand on a l'impression que ça s'est très bien passé pour nous, on a souvent des très mauvaises décisions. Et inversement, quand on a l'impression que ça s'est très mal passé, on a plutôt des bonnes décisions. Donc je préfère pas prédire l'avenir. Je pense qu'il a été très clair qu'il y avait 2 logiques qui s'opposaient complètement. D'un côté, le fait de considérer que le projet de La Chouette était un projet critiquable, voire dangereux dans son investissement des lieux. Et de l'autre côté, un collectif de personnes qui considèrent au contraire qu'ils ont fait vivre un lieu qui était abandonné en rendant service à des personnes en situation de précarité. Et je pense que ce qui était important dans cette audience aujourd'hui, c'est que ces deux visions du dossier puissent exister dans une salle d'audience.
Lucas donne son ressenti après cette nouvelle audience.
J'ai pas l'habitude de ce genre de procédure. J'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. La décision sera rendue dans 1 mois et demi. C'est toujours du temps de gagner pour nous aussi. Ça fait plaisir. Et je pense que les plaidoiries qui ont été faites sont plutôt à notre avantage, mais je suis très mal placé pour en juger.
Et comment tu sens un peu le futur donc de La Chouette là ? Tu sais qu'il y a 1 mois et demi. Mm-hmm. Et après, comment vous allez vous organiser ?
Bah après, c'est le flou total. L'expulsion, elle peut aussi bien être immédiate, elle peut aussi bien être 3 mois plus tard, 6 mois plus tard. C'est vraiment très aléatoire. Nous, on continue dans l'optique qui est la nôtre depuis le début. Chaque jour de gagner est bon à prendre. On est un petit peu au jour le jour parce que justement, le calendrier est aléatoire. Donc, on vit chaque jour comme le dernier. Et aussi, on se concentre beaucoup sur notre déménagement sur le terrain Pennsuit qui appartient à Emmaüs. On l'a évoqué dans la plaidoirie. Ça, c'est le futur. Mais en tout cas, chaque jour qu'on pourra passer dans cette maison, on est attaché à ce lieu maintenant, forcément, depuis 7 mois. On bougera le plus tard possible, quoi, ça c'est certain.
Et donc ce futur projet, tu peux nous en dire un peu plus?
Alors ça ne sera plus une habitation, parce que le lieu est différent. En fait, l'idée c'est de pérenniser nos activités actuelles à la Chouette, sans être complètement borné non plus. Le lieu est différent, le contexte est différent, donc on va adapter les choses. Par exemple, il n'y aura plus la partie habitation et donc hébergement de personnes en situation de précarité. Par contre, il y a d'autres choses qu'on va pouvoir plus développer, comme un atelier qui est un atelier de travail bois, métal, et puis l'atelier de vélo qui est plus d'allure, qui soit mieux équipé. Voilà, le contexte est un peu différent, donc on va un petit peu abandonner certaines choses malheureusement. Par contre, c'est au profit d'autres activités qu'on a et qu'on veut pérenniser, bien sûr.
Donc là, la Chouette, donc c'est pas une association, c'est un collectif. Est-ce que ça va devenir une asso avec ce futur avec Emmaüs, ou est-ce que ça va être dans Emmaüs? Comment ça va se passer?
Ben, c'est ça la question. Pour l'instant, elle est pas encore. La question est encore ouverte. Administrativement, juridiquement, c'est pas évident qu'il soit judicieux de créer une association. Peut-être qu'on va se fondre, entre guillemets, officiellement, sur le plan officiel, dans Emmaüs, devenir des bénévoles d'Emmaüs et qu'il n'y ait plus d'existence officielle de la Chouette à part entière. La question est encore sur la table. On fera en fonction de ce qui est le plus pertinent dans nos intérêts, quoi. Commun avec Emmaüs.
La Chouette pourrait bien avoir déjà trouvé son nouveau nid. La communauté Emmaüs était aussi présente à l'audience pour les soutenir et propose une solution pour les loger.
Bonjour Bernadette Perrault, vous êtes la présidente d'Emmaüs. Donc aujourd'hui vous êtes venue à l'audience pour soutenir La Chouette. Quel est le lien Emmaüs-La Chouette ?
En fait, depuis l'ouverture de la maison de La Chouette, Emmaüs a répondu présent puisqu'ils avaient besoin d'aide, entre autres pour avoir quelques matelas pour héberger des personnes qui étaient en grande précarité. C'est une chance à Bourg-en-Bresse d'avoir cette énergie-là. Donc à Emmaüs, on s'est dit faut soutenir ça, voilà. Faut soutenir, c'est une chance pour nous tous. On s'est dit voilà, nous on peut vous accueillir, on ne sait pas exactement quand, mais on va se débrouiller pour pouvoir vous accueillir parce que votre énergie elle nous intéresse, donc voilà, tout simplement.
Et donc ces locaux envisagés, ce serait où ça en est?
Alors il se trouve qu'à Emmaüs est propriétaire d'un terrain de hangar. Alors c'est une grande histoire, ce terrain, ces hangars, hein, c'est une grande histoire. Ils ont été abandonnés déjà depuis maintenant 8 ans, je crois. C'est au chemin des Prés de Brou, qu'on appelle aussi Pennsuit, le site de Pennsuit. Donc on est content que cette histoire continue et qu'on va, comment dire, que ce terrain, ces bâtiments retrouvent une seconde vie. Emmaüs avait déjà l'intention de se réapproprier ce lieu et d'en faire un lieu de vente. Mais on a toujours du départ souhaité s'associer à d'autres sur ce terrain pour vraiment le faire vivre. Et mettre de la couleur dans cet idéal d'une économie sociale, solidaire et écologique.
Le lieu qui pourrait accueillir le collectif La Chouette est dans un mauvais état. Il a été victime d'un incendie il y a plusieurs années. Les dégâts sont encore à évaluer. Le chantier pourrait donc prendre du temps. Emmaüs pense pouvoir accueillir le collectif en 2022. Il y a quelques mois, nous étions allés dans les locaux de La Chouette, appelée aussi la maison de l'écologie et de la décroissance, pour comprendre son fonctionnement.
Réparer son vélo, fabriquer des culottes menstruelles ou manger un repas préparé à partir de produits récupérés, c'est ce que propose La Chouette, la maison de l'écologie et de la décroissance à Bourg-en-Bresse. Cette maison inoccupée, située au numéro 10 de l'avenue du Maréchal Juin, a été ouverte par une dizaine de personnes convaincues de l'urgence à agir pour lutter contre la catastrophe écologique. squatter un lieu abandonné pour en faire une maison de l'écologie. L'idée leur a été inspirée par le mouvement écologiste Extinction Rébellion, né fin 2018 au Royaume-Uni. Un reportage long format à découvrir.
Alors bonjour, moi je suis Julie. Donc, je participe à la vie de la maison de l'écologie et de la décroissance à Bourg-en-Bresse depuis l'ouverture le 28 août. Je dirais qu'on doit être une quinzaine à peu près à s'investir dans ce lieu assez activement. L'idée, c'est de proposer un lieu de vie alternatif où on peut réfléchir ensemble aux questions actuelles de société et environnementale. Donc pour ça, on propose différents ateliers et différents espaces où peut se rejoindre du public. Alors là, on est dans le jardin. Donc quand vous rentrez, vous verrez qu'il y aurait un panneau donc, qui indique le jardin partagé qui est animé par Lucas. Et là, le compost, on a une personne qui bosse dans le compost qui nous a donné beaucoup de conseils et qui a fait un atelier là-dessus. La bibliothèque partagée qui regroupe beaucoup de livres militants et qui traite des questions écologiques et sociales qui sont intimement liées, et c'est aussi également ça qu'on essaye de faire comprendre dans cette maison. La gratuiterie, donc, qui est un lieu où on essaye de sensibiliser à la consommation excessive des biens. Donc on récupère des choses, on les retape un petit peu et puis après on les donne. Et les personnes peuvent venir déposer des choses et récupérer, ou juste venir pour récupérer. On a aussi une salle de réunion et une salle d'atelier. Donc là, en ce moment, il y a un atelier pour de création de culottes hygiéniques lavables. Donc on ira voir tout à l'heure. Et nous avons également un grand garage. Et c'est dans cet espace en fait, qu'on fait les ateliers à plusieurs. Il y a eu la semaine dernière un cours de Qigong où on était 8. C'est aussi ici qu'on fait la récup alimentaire et qu'on distribue la nourriture. Lucas, tu veux parler du jardin ? Bonjour.
Bonjour. C'est moi qui chapeaute un petit peu le potager. C'est pas tant dans l'espoir de récolter que plutôt pour permettre à des gens qui ont envie de jardiner, qui n'ont pas d'espace forcément, de venir participer, mettre un petit peu à la main à la pâte, d'apprendre 2-3 techniques.
C'est une idée qui nous est venue pendant le confinement. On était un petit groupe de 10. Pendant 3 mois, et pendant ces 3 mois, du coup, on a fait pas mal d'ateliers, de réflexions, parce qu'on était beaucoup à être au chômage ou à vouloir changer de voie. Et dans ces ateliers-là, du coup, est sortie l'idée de pouvoir faire en fait un lieu de vie et d'expérimentation. On pourrait réfléchir à des nouvelles manières de vivre ensemble et proposer des ateliers sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Parce que pendant ces 2-3 mois de confinement, en fait, on s'est pas mal renseigné. On a pas mal lu et il y a beaucoup de colère qui est montée en chacune de nous sur la catastrophe écologique. On n'avait pas envie de rajouter encore une nouvelle association, un nouveau collectif, alors qu'il y en a déjà beaucoup sur Bourg-en-Bresse. Donc on a décidé de s'appeler juste Maison de l'écologie et de la décroissance, parce que la décroissance nous parle beaucoup, et de faire venir, en fait, d'ouvrir le lieu pour toutes les assos et les collectifs, pour qu'ils puissent en fait l'investir au même titre que les personnes qui l'ont ouvert, en fait, ou des individus. Et de pouvoir ouvrir un maximum le lieu, en fait. Et après, nous, à titre individuel, on est chacun, en fait, bénévole et investi dans différentes assos. Sans ces assos et ces collectifs de Bourg, je pense que la Maison de l'écologie, elle n'existerait pas. Ouais.
On poursuit la visite ?
Oui. Donc là, on rentre par l'arrière de la maison. Donc, il y a 4 salles qui sont vraiment très ouvertes. On peut venir de 10h à 19h tous les jours de la semaine, sauf le lundi. Donc là, il y a un atelier dans une de ces salles. Donc là, c'est l'atelier confection de culottes hygiéniques lavables.
On s'est déjà retrouvés une première fois pour discuter un petit peu de nos expériences en termes de protection hygiénique, de culottes, de cups, etc. Et du coup, après, on s'est dit qu'on se retrouvait une deuxième fois pour faire un premier test de culottes de règles lavables. Donc, voilà. Et donc là, aujourd'hui, on en a récupéré un patron de culottes et on fait nous-mêmes le patron l'intérieur de la partie absorbante, etc., de la culotte. Et on teste. Donc, voilà. C'est vraiment un atelier de création ensemble. Personne n'en a jamais fait une entière. Ben, on a Claire qui a quand même fait un test avant l'atelier pour voir un petit peu avant. Et donc c'est vraiment l'idée de le faire ensemble pour découvrir et puis pour tester après et en parler et trouver s'il y a d'autres solutions mieux ou si on a envie de faire des progrès sur une deuxième culotte, la prochaine, etc.
On a décidé de prendre des tissus recyclés, réutilisables. Donc on est vraiment dans une démarche expérimentale.
Mais je pense que c'est plus simple, c'est comme c'est une histoire de tout à l'heure, comme là. Ça nous évite de faire une pointe.
J'en ai entendu parler par le sel d'abord, et après j'ai découvert leur programme. Et j'ai dit, ah ouais, faut que je vienne voir ça. Il y a des trucs qu'on peut trouver ailleurs, mais ici, ça rassemble quand même plein d'alternatives sur plein de thématiques.
Puis c'est la liberté de s'impliquer comme on en a envie, en fait. On peut proposer quelque chose sans avoir à faire un dossier ou à faire des choses. C'est juste on a une idée, on la met, on en propose à plusieurs personnes et on peut le faire comme ça.
Parfait. Il manque la dernière couche, du coup, la forme, le patron de la dernière couche.
Mm-hmm. Absorbante,
c'est ça ?
Mmh. Du coup, on a fait comme celle-ci pour le devant.
Me concernant, ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire, des culottes de règles. Et j'avoue que le faire tout seul, c'est un peu moins marrant. Du coup, c'était vraiment la maison, c'était l'occasion de le faire ensemble et de motiver des gens et du coup d'en parler et de trouver des solutions encore mieux. Et puis c'est pareil, moi je couds à mes temps perdus, mais par exemple, on a Marion qui coud très bien et qui a appris, donc qui nous apprend plein de choses, qui a du matériel qu'on n'a jamais utilisé. Donc c'est pareil, c'est la chance de pouvoir partager ça, quoi.
Et espérons que ça fonctionne et qu'on puisse faire d'autres ateliers, accueillir d'autres personnes et qui sait sensibiliser les gens à cette méthode et la diffuser.
Ah bah attends, j'ai pas pris là.
Allez, derrière, j'ai mis un morceau.
Ah voilà, c'est ça. Ça, c'est la forme de la partie étanche absorbante. Du coup, c'est la même.
Donc là, on était à l'atelier. On va poursuivre la visite.
Oui. Bah, Jean-Loup va présenter le garage. Et,
Si vous voulez, oui.
Donc ça fait une autre voix, parce que du coup, vu qu'on est tous un peu... Jean-Loup, il n'a pas forcément non plus forcément les mêmes idées que nous et tout. Donc ça rajoute encore un autre point de vue.
Je suis moins impliqué que ces deux jeunes gens.
C'est le technicien, justement.
Ouais, technicien, réparation de vélo, de mobylette. Et du coup, je m'occupe un peu, j'ai fait 2-3 récup. Et du coup, je peux vous présenter une des grosses parties de la maison, c'est la récup alimentaire pour lutter contre la surconsommation.
Donc ça, cette récup alimentaire, comment vous récupérez ces aliments?
Et c'est des associations qui nous les donnent, en général. Il y a aussi quelques supermarchés qui veulent bien nous donner leurs invendus. Et du coup, on récupère comme ça beaucoup de choses, comme vous pouvez voir.
Sachant que ce qu'on récupère des associations, c'est des choses que sinon seraient mises à la poubelle, en fait. Voilà, en fait, tout ce qu'on récupère, c'est des choses qui devraient être jetées si on passe pas par là. On est vraiment le dernier maillon avant la poubelle.
Voilà. C'est des petites choses qui peuvent être un peu abîmées, des légumes qui peuvent être un peu abîmés, ou des fois, c'est juste l'emballage qui est abîmé. Et les supermarchés, du coup, les jettent. Et nous, on récupère ça pour les consommer, pour éviter justement la surconsommation. Et du coup, ça profite aux gens qui, principalement, qui sont dans le besoin, qui ne peuvent pas s'acheter des légumes frais et des choses assez fraîches. Et puis, il y a des gens aussi, par militantisme, qui viennent récupérer pour ne pas consommer plus que le nécessaire. Du coup, il y a pas mal de profils qui viennent ici. Puis, on récupère, on fait le tri et puis on redistribue. Moi, j'étais au courant assez vite avec Julie, parce qu'on se connaît bien depuis longtemps. Et puis, y a plein de gens qui sont venus se greffer. Maintenant, là, ça a pris l'ampleur, tous les ateliers. On a mon frère qui est par là, qui est charpentier, du coup, en bois, il s'y connaît. Un autre, Mathias, qui est menuisier. Et du coup, ça regroupe beaucoup de gens.
Pour le coup, en parlant de métier et de profil, on a vraiment de tout. Et ça, c'est trop bien.
Des électriciens, plombiers...
Ouais. Ouais, on a un parqueteur qui est venu aussi refaire le parquet dans une des salles et tout ça. Enfin, c'est trop chouette. Et du coup, en même temps, apprendre et montrer comment il faisait son métier.
Voilà.
Donc ça, c'est super, ouais.
Ça permet de partager les savoirs, comme ça. On voit différents métiers, comment ils travaillent, et c'est toujours très enrichissant.
On continue.
Donc là, on se retrouve face à un mur avec des affiches.
Oui, c'est ça. Alors là, on est à l'entrée de la maison. Donc quand vous passez la porte d'entrée, on a un petit couloir. Et on tombe sur différentes affiches qui ont été écrites par différentes personnes qui s'investissent. Donc on a une liste avec tous les travaux qu'il y a à faire dans la maison. Donc l'idée, c'est que chacun puisse rajouter des travaux s'il trouve que, je sais pas, ce mur il est pas bien, il a à repeindre, ou qu'il a envie par exemple de faire un frigo enterré ou de tester de nouvelles choses, il l'ajoute. Et comme ça, les personnes qui viennent peuvent directement regarder sur la liste s'il y a des choses à faire, s'ils savent pas trop quoi faire le jour où ils viennent. Donc on a par exemple repeindre certains murs, poncer les boiseries, installer des abat-jour dans quelques salles, fixer les extincteurs qui sont au sol. Voilà, donc plein de petits trucs comme ça.
Et là, je vois que vous êtes adossé à la charte des valeurs.
Oui, Il y a la charte des valeurs qui explique sur quelles sont les valeurs en fait qui ont regroupé les personnes qui ont commencé à monter le lieu et auxquelles on adhère. Il y a aussi la charte des bénévoles et des personnes qui viennent s'investir dans le lieu. Et la charte des habitants, parce que du coup, le premier étage est occupé.
Ben oui, c'est des valeurs qu'on retrouve dans l'écologie politique qu'on appelle radicale. Moi, à titre personnel, je me retrouve pas forcément dans cette conception, dans ce terme de radicalité. Je trouve que c'est plutôt pragmatique que radical. C'est une liste de points qu'on pourrait résumer de quitter notre vue, notre vision très anthropocentrée du monde. Ça veut dire que on voit la planète à travers les lunettes humaines. On n'a pas d'empathie, on se projette pas dans la vie sauvage, animale, végétale, et on a une vision utilitariste de la nature. Donc c'est une vision différente, c'est à peu près ça, ces valeurs qu'on porte. Et puis on n'est pas les seuls, on les a pas vraiment inventées pour le coup. on se réclame de gens qui portent ce combat depuis bien plus longtemps que nous.
Okay. Bah alors on a fait le tour de la maison, ouais. Après il y a les toilettes stage dehors, il y a toute la partie habitation, il y a plusieurs chambres en haut, et la cuisine, on a une énorme cuisine. Et là-bas, y a pas mal de réunions d'assaut du coup, qui se font dans cette cuisine, ou des réunions de collectifs, et les cours de français, et les repas partagés, bien sûr. Ouais. Et là, il y a le cours de français à l'étage en ce moment. Et du coup, dès qu'ils auront terminé le cours de français, on passera à la cuisine pour le repas partagé de ce soir, la cantine zéro déchet. Et pour la cuisine, c'est pareil, n'importe qui peut venir nous filer un coup de main pour cuisiner et tout ça. Les équipes de cuisine, elles tournent chaque semaine. Aujourd'hui, c'est nous qui discutons avec Lucas, mais ce serait deux autres personnes. Je pense que le discours serait aussi quand même assez différent, vu que l'idée, c'est que le lieu est vraiment ouvert à tous, qu'on a une réunion hebdomadaire en fait tous les vendredis, et qui souhaite venir à la réunion a un pouvoir décisionnel au même titre que n'importe quelle autre personne qui serait là depuis 2 mois. Donc le lieu en fait évolue aussi beaucoup en fonction des personnes qui s'investissent, et ça bouge pas mal. Et après, au niveau des personnes qui viennent, je suis assez contente parce que je croise et je rencontre beaucoup de personnes que je rencontrerais pas normalement dans mon milieu social si on n'avait pas ouvert le lieu.
C'est-à-dire de votre milieu social
Plutôt bourgeois, je dirais. Classe moyenne élevée. Et du coup, on a des personnes, on a vraiment des gens qui viennent, des militants écologiques, on a des militants sur les questions sociales, les deux. On a des personnes qui viennent parce que juste pour certains ateliers qui les plaisent. On a vraiment un peu de tout. On a des personnes en situation de précarité qui viennent plutôt pour les repas ou venir récupérer la nourriture. Des sans-papiers, enfin il y a un peu. Ça brasse quand même vraiment beaucoup de monde, ouais. Et après, sur l'avenir de la maison, c'est un sujet qui commence à se poser pas mal entre les personnes qui s'investissent ici. Donc pour l'instant, on peut pas trop vous en dire plus parce que personne s'est vraiment mis d'accord. Mais c'est un sujet qu'on commence à travailler vraiment, ouais. Parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester.
Et on en saura plus sur l'avenir de la chouette le 20 mai, quand la décision du tribunal tombera sur l'éventuelle expulsion des résidents du squat.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h. Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, que ça va être qu'on va être à la retraite.
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.